comment représenter la Shoah au cinéma. Dernière tentative passionnante sur ce sujet, celle du réalisateur Jonathan Glazer avec son film sorti il y a quelques semaines en salle, La Zone d'intérêt. Récompensé par le Grand Prix, ce fut l'un des chocs du Festival de Cannes de cette année. Il faut se rappeler que la représentation des atrocités nazies s'est posée dès le début, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à commencer par le procès de Nuremberg. Suivront toutes sortes de tentatives et de réflexions, de Capot de Gillo Pontecorvo, dont un plan suscita tant de questions, à Nuit et brouillard, la série Holocauste, bien sûr Shoah de Claude Lanzmann, la liste de Schindler de Spielberg et plus récemment Le Fils de Saul de Laszlo Némes. Le film La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer fait une autre proposition. Le réalisateur que l'on connaît par Under the Skin notamment est également un plasticien, un chercheur et il s'est posé lui aussi la question de cette représentation impossible, éthique. Il y a répondu en faisant des choix radicaux de travail sur le son, puis d'un dispositif de caméra dans un quasi huis clos, un peu à la manière d'un programme de télé-réalité. En effet, le dispositif du film repose sur un tournage qui s'est fait avec une dizaine de caméras du type caméra de surveillance. Les acteurs ne savaient pas d'où ils étaient filmés. Cette distance, cette froideur et cette absence d'artifice empêchent toute empathie pour les protagonistes. Le film suit le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig, s'efforçant de construire une vie de rêve pour leur famille, dans un pavillon avec jardin, serre et piscine, juste à côté du camp d'extermination. L'expression effroyable « la zone d'intérêt » était utilisée par les nazis pour décrire le périmètre de 40 km² entourant le camp de concentration d'Auschwitz, habité par les bourreaux militaires et civils postés du côté allemand, derrière des palissades austères. Jonathan Glazer.
Moi j'ai eu ce thème à l'esprit depuis de nombreuses années. Je souhaitais, d'une façon ou d'une autre, faire quelque chose de ce genre dans ma vie. Et nous y sommes. Et au fil du temps, les choses ont évolué. Cette maison assez idyllique qui était juste à proximité du camp de concentration, eh bien, c'est cette maison qui a attiré mon attention. Et j'ai fait quelque chose, en fait, sur le mur qui séparait le camp de concentration de cette maison.
Les premières minutes du film plongent le spectateur devant un écran noir et une musique lancinante et désagréable. C'est une sorte d'avertissement qu'il ne va pas tarder à interpréter. Il ne verra rien du cauchemar, mais entendra tout. Puis nous découvrons une maison où tout respire l'ordre et le calme, la demeure de la famille Höss. Le père s'occupe de ses enfants, embrasse son épouse et part au travail chaque matin. Le malaise s'installe vite, très vite, et ne nous quittera pas jusqu'à la fin du film. Des bruits montent d'à côté, des fumées aussi, des cris parfois. Les enfants jouent avec des dents, des chiens aboient partout. Au fur et à mesure du film, les cris deviennent hurlements, les détonations gagnent en intensité sonore, la fumée du crématoire en épaisseur visuelle. Et si la représentation du génocide des Juifs ne se fait pas par l'image, elle se fait par le son. Et c'est là toute la force et l'originalité de cette proposition cinématographique. C'est un film sur le déplacement du regard. Les scènes banales que l'on voit à l'écran se passent à quelques mètres de l'horreur, derrière un mur. Ce qui parvient de derrière ce mur, ce sont des sons essentiellement, un film en creux, sur le hors-champ. Le personnage d'Edwin Höss est interprété par l'actrice Sandra Hüller dans ce rôle de petite bourgeoise qui a trouvé son paradis à deux pas de l'enfer. Rudolf Höss, quant à lui, y est décrit comme un parfait carriériste dans l'obéissance totale des ordres de sa hiérarchie, faisant preuve même d'initiative pour améliorer les capacités de rendement du camp d'Auschwitz.
Je me souviens d'une discussion avec mon père il y a quelques années lorsque je lui ai dit que j'allais abordé ce sujet. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Laisse ce sujet pourrir par lui-même, ça appartient au passé, c'est pas la peine d'en parler encore. En fait, je crois qu'il est important qu'on continue d'en parler et qu'on continue de se familiariser avec ces événements tragiques. Ce qu'on a essayé de faire avec ce film, le fait de montrer qu'il s'agit de personnes et non pas de monstres était très important. En fait, le crime absolu est que ce sont des êtres humains qui ont commis ces actes contre d'autres êtres humains. On ne devrait pas se comporter comme cela, mais je crois que rien n'est impossible.
Jonathan Glazer nous offre un film glaçant sur l'immorale banalité du mal dans les coulisses familiales de la terreur. Une œuvre brillante sur l'utilisation du hors-champ qui laisse le spectateur hagard et transi d'effroi. Bien sûr, le film repose sur un postulat, c'est au spectateur de remplir les creux à partir de son savoir. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer est l'un des films les plus passionnants de l'année.